Bonjour et bienvenue sur bagro.fr pour cette nouvelle édition de Toasty, donc le numéro 53. Alors aujourd'hui, nous sommes trois cette fois-ci, un peu plus que la semaine dernière. Je suis accompagné de Tibbs et de TMDJC.
Youpi!
Ouais, on a appelé TMDJC, on a tellement galéré la semaine dernière qu'il nous fallait un mec en plus pour galérer.
Un mec qui n'a pas suivi cette semaine. Mais c'est important, bravo. Moi j'aime ce côté professionnel de cette émission.
On s'est retrouvé bloqué sur le Canon Spike. On savait plus quoi dire, on savait même pas de conneries à sortir. Donc du coup on s'est dit sans TMDJC c'est pas possible.
Non mais voilà, mais c'est bien d'avoir quelqu'un de plus qui galère. Vaut mieux galérer à plusieurs que tout
seul. Ouais, je trouve ça sympa.
Ben oui.
C'est plus intéressant de montrer son incompétence à
Alors faut savoir que je crois que TMDJC et Tibbs, je suis pas sûr que ce soit pareil. Il arrive, il sait pas du tout ce qui s'est passé. Il va découvrir l'actualité avec nous.
Oui, ben, j'étais en train de penser à quelque chose, je ne sais plus quoi. Et lorsque soudain on m'a rappelé que c'était l'heure de toaster. Et donc voilà, toastons.
Alors on va parler cette semaine de Injustice God Among Us, des jeux Capcom, de Dead or Alive 5, de Tekken Tag Tournament 2, de Persona 4 Arena et d'autres jeux moins mainstream, super connus comme Chaos Code, Skullgirl, PlayStation All-Star, Under Night in Burst, Mortal Kombat et des surprises. Alors on va commencer, on va parler de Injustice God Among Us. Tibbs, est-ce que tu veux en parler ?
Absolument que je vais en parler. Alors, Injustice God Among Us. Alors, je lis le fichier en même temps que je vous dicte ce que je suis en train de lire, donc. Alors, a priori... Non, mais c'est du journalisme total. Hein.
Je vais t'expliquer le principe de ce qui a été annoncé pour ce jeu. Si tu lis ce que j'ai écrit en résumé, en fait, le système de combat a été décrit par les game designers qui serait un peu plus évolué que celui de Mortal Kombat. Entre autres, le bouton spécial permettrait de faire des combos inédits différents selon les personnages, qui permettrait d'augmenter la vitesse, de changer les caractéristiques, comme le personnage qui a une... Tu sais qu'il y a deux bâtons qui peuvent se faire un grand bâton en même temps. Comment il s'appelle ce bâton? Je sais plus, il l'a annoncé, c'est un personnage tout vert.
Batman,
voilà, oh, bah, c'est bien parti aussi. Il va pouvoir, en fait, c'est un personnage qui a une spécificité, c'est qu'il se bat avec deux bâtons courts et en appuyant sur le dernier bouton, le bouton spécial, il a la capacité de les réunir pour en faire un grand bâton et avoir une autre gamme de coups. Et donc lui pourra avoir des combos inédits où on pourra changer de stance en fait en plein milieu du combo.
D'accord, c'est exactement ce que je voulais dire.
C'est exactement ce que tu voulais dire. Bon, bah, tu vas parler de la suite alors, sur ce jeu, parce qu'il y a d'autres infos.
Ouais, donc il y a eu un sondage sur Twitter de Ed Boon, et a priori, le personnage le plus populaire chez les dames serait Power Girl, qui serait devant Supergirl ou Bad Girl. Alors j'avoue que je ne connais pas Power Girl.
Bah, c'est pour de vrai.
Ouais, non, mais il y a eu un sondage.
Pour de vrai, vrai,
mais loin devant. Elle a 60%, plus de 60% des yeux.
Mais ça, c'est à cause du décolleté, hein, cherche pas. Hein.
Ah oui, bah, quand tu regardes à quoi elle ressemble, tu la cherches sur Google, tu dis ah oui, moi aussi, je vote pour elle.
Justement, c'est ce que j'ai. Tu vois, là, quand j'ai fait merder le fichier, c'est que j'étais en train de chercher. Merde, qu'est-ce que je fais ? En train de chercher à quoi ressemblait Power Girl.
Un Power Girl.
Un grand fan.
Ouais, sans avoir lu de comics, t'es fan. Voilà, il y a un autre,
Ah oui, je vois c'est qui Power Girl, effectivement. Ça me parle tout de suite. J'avais vu de nombreux cosplays évocateurs du personnage. Donc oui, je comprends
en général, quand tu postes une photo sur
c'est là qu'on voit que chez nous, quand même, au niveau français, Marvel a quand même largement plus laissé sa patte que DC. Power Girl, juste rappeler, c'est quand même un personnage supra connu de l'univers DC aux États-Unis.
Ouais, mais nous, on était
on connaît mieux les personnages Marvel, notamment la Veuve Noire qui a une capacité spéciale à, quand elle tombe, à avoir une position des jambes super sexy.
Ouais, mais ça, c'est vachement important quand tu te pètes la gueule et que t'es une gonzesse d'arriver toujours à avoir la classe, quoi. C'est, sinon, je veux dire, pourquoi tu fais super-héros, je veux dire.
Ah, ça, c'est clair. Ah, voilà. C'est clair. Alors, il y a une autre annonce, mais on ne sait pas ce que c'est, puisque c'est l'annonce d'une annonce. Ils ont annoncé un adjustment à venir, donc on ne sait pas ça va être quoi. Et ils ont également parlé de révéler l'histoire, pourquoi tous les super-héros se tapent. À mon avis, les scénaristes n'ont pas dû aller chercher bien loin.
Non, je sens que ça va être...
Les super-héros se tapent dans tous les univers possibles et imaginables.
Oui, mais il faut trouver une raison. Ce n'est pas de la violence gratuite, c'est quand même des super-héros. Il faut bien qu'ils se tapent pour quelque chose avec de la valeur, une vraie valeur.
Puis, de toute façon, un super-héros qui se tape pas, c'est un super-héros qui sert à rien et donc qui coûte de l'argent parce qu'on les entretient, ces gens-là, faut pas l'oublier. Hein.
Bah oui, parce que mis à part Batman qui est bon, que ça va, qui a une manne d'argent suffisante, je dirais, les autres, hein, qu'est-ce qu'ils foutent dans la vie?
C'est un gouffre financier. Alors après, ils font genre oui, tout ça, moi je suis Peter Parker, je suis photographe, je gagne que dalle. Pff, tu parles. Ouais, combien il a touché avec ses films? Non, faut pas me la faire, moi.
Et puis l'entretien silicone de Power Girl, ça coûte de l'argent.
Ouais.
Maintenant que je vois qui c'est.
Oh, oui, oui. Bon, on va rester dans les comics, en fait. On va dans parler de comics.
Oui, bien sûr, ouais.
Comics, ouais. Ouais. Vous êtes durs, les mecs.
Je peux te dire qu'on est des vrais comics.
Juste pour dire que dans la ville où désormais il n'y a plus d'électricité, New York, il y avait, remarque sera peut-être rétablie quand vous écouterez Stosti, il y a eu le Comic-Con il y a quelques semaines, et c'est là où Ono avait annoncé la sortie de Darkstalkers. Vous vous souvenez, là on est parti sur Capcom. Capcom Unity a mis en ligne la vidéo sur YouTube où on voit Ono faire son annonce. Donc il est déguisé en Chun-Li, il fait une entrée fracassante et il fait son annonce. Donc si vous êtes fan du personnage, allez-y, vous allez bien vous marrer.
Alors, est-ce qu'il fait une entrée en faisant un Spinning Bird?
Non, malheureusement non. J'aurais bien voulu.
Il y a un truc qui est peut-être pas logique en plus, c'est pour annoncer le jeu. Pourquoi il s'était pas déguisé en Morrigan en fait?
Ouais, ou en Felicia.
En Felicia. Et il se souvient des persos qui sont dans le jeu. En fait, c'est juste pour être sûr qu'il ne fasse pas toute la street cross.
Blanca.
Voilà. Avec tout le respect que j'ai pour toi, Ono, hein, tu sais à quel point je t'aime, mais il faut arrêter de prendre de la coke maintenant.
Il y a des chances qu'on ait des skins Blanca pour Sasquatch et compagnie. Hein.
Ouais, ce serait non. Ce qui serait très logique, c'est que ce soit Felicia qui soit en Blanca, parce que si tu l'ending de Felicia, en fait, elle est amoureuse de plus ou moins de Blanca. Elle veut faire star de ciné avec lui.
Ouais, mais je savais que tu vois, je t'amenais sur quelque chose d'intéressant en disant ça.
Darkstalker, on n'a pas d'autres infos sinon. Par contre, on a des infos sur notre petit chouchou, Street Fighter Cross Tekken, donc qui va être patché prochainement. Et donc, à cette occasion, on a une annonce de Ayano, il me semble. Je vais te laisser en parler, TMDJC.
Attends, que je me remette au bon endroit. Clac, 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 clac. Oui. Ouch, j'ai envie de dire et aïe. Parce qu'on va parler en fait des copies de la version Vita de Street Cross Tekken.
Ah, tu veux attaquer direct parce qu'il fait mal, toi.
Ouais, parce que Non, tu veux qu'on commence par l'autre directement?
Non, par la version console. En fait, sur la version console, il y a un patch qui est prévu. Ils ont annoncé.
Tout à fait.
Ils ont parlé de passer le Pandora de 7 à 10 secondes. Donc, ils gagneraient 3 secondes.
Mais on en avait déjà parlé la semaine dernière. Enfin,
sauf que Ayano, en fait, écoutait les
écoutait le Tosti, justement.
Il a écouté le Tosti, il s'est dit, tiens, 5K, il nous dit que c'est trop court, 10 secondes, faudra qu'on fasse autre chose. Donc, ça va sûrement changer d'ici là. Donc, le patch n'est pas du tout définitif. Et il y aura d'autres changements, notamment sur le Pandora, puisqu'il a été indiqué nommément, hein, comme quoi 10 secondes, si les joueurs continuent et testent et se rendent compte qu'effectivement, ça ne change pas grand chose à l'utilité du truc, ils vont le prolonger ou ils vont faire autre chose avec, certainement. Ils ne savent pas quoi faire avec, en fait.
Non, mais c'est-à-dire que bon, moi, je rebondis sur ce que vous disiez la semaine dernière. Je trouve que vous aviez bien résumé le truc. Là, aujourd'hui, ce mode-là est très, très peu joué parce qu'en fait, pour être efficace, en fait, il te demande d'être déclenché vraiment dans le dernier laps de temps parce que sinon, tu te fais...
Sinon
t'as perdu grosso modo. Et comme effectivement il n'y a pas de freeze du temps quand tu fais certaines actions, le problème c'est que le temps défilant, en fait tu te mets à courir après le personnage adverse qui prend tout le temps de t'esquiver, et puis dans ce cas là tu finis sur un time over pourri. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, moi le Pandora, je continue à pas bien comprendre l'utilité du truc. Je suis sûr que l'idée de départ devait être très bonne. Le mec est arrivé, il a fait ouais j'ai une super idée, etc. Ils ont tous fait ah ça doit être super tout, etc. Puis quand ils ont commencé à le développer, ils ont fait ouais. C'était quoi ton idée déjà? Je sais plus trop. Tu sais, j'avais pris des notes, mais je l'avais laissé à la machine.
Je vais faire un X-Factor,
mais dans Street.
Voilà, un super système de comeback où quand tu l'utilises, en fait, tu comeback pas, tu as perdu.
Ouais. Du coup, c'est un peu.
Il manque le com, en fait, t'as que le back.
Mais il est dur. Il manque les deux, c'est con. Mais j'ai envie de crier ouch quand même, parce que j'ai envie de parler des copies qui ont été vendues au Japon. Donc de la version Vita,
oui.
Vous avez forcément vu les amis, parce qu'on parle
qui s'est vendu, alors curieusement, pratiquement aussi bien que la console.
Voilà, comme nous le disait-il,
si ce n'est plus.
De démarrer, si ce n'est plus, parce qu'a priori, il y a peut-être plus de versions de Street Cross Tekken que de Vita vendues. Bref, on est à 5420 copies à autre chose au Japon, donc c'est quand même pas top. Hein. On n'est pas dans un super démarrage, on peut le dire. Je suis en train de regarder en parallèle en fait les prévisions de Capcom, mais là, enfin les grosso modo, ils sont clairement largement en dessous de ce qu'ils souhaitaient derrière.
À mon avis, oui, 5400.
Je suis en train de regarder, mais non, parce qu'ils s'attendaient pas non plus à des chiffres non plus défiant toute concurrence, mais ils étaient à plus, ouais, c'est ça, ils s'en étaient à plus du triple en fait de ce qu'ils souhaitaient vendre les premières semaines. Donc bon, c'est pas ça.
Mais tu crois que c'est parce que les gens sur Vita veulent pas jouer à un jeu de combat ou c'est parce qu'ils ont déjà tous le jeu sur PS3?
Est-ce qu'on peut comparer, j'imagine qu'on n'a pas les chiffres là, mais est-ce qu'on peut comparer par exemple avec la version de Marvel sur Vita ou les autres jeux de combat?
Non, pas du tout le chiffre. Par contre, je peux vous dire que la version de Super Street Fighter 4, qui s'est forcément moins bien vendue sur 3DS que les autres versions, c'est quand même mieux vendu pour l'instant que ce fameux Street Cross Tekken. Mais il faut juste rappeler du coup à nos auditeurs qu'on a, Capcom se trouve confronté un triple problème. Le problème, c'est que le jeu de combat est en berne à l'heure actuelle. Enfin, les ventes se cassent la figure par rapport à il y a quelques mois, ce qui est logique. Hein. On est sur une descendante, ça on en avait déjà parlé. Il s'appuie en fait sur un système qui nativement n'attire pas beaucoup les joueurs de jeu de combat. Je dis pas beaucoup, ça dépend vraiment. Il y a des joueurs qui jouent sur tous les supports, donc on en parlait avec Oikouk il y a pas longtemps. Les gens qui ont envie de jouer partout achèteront le jeu, ça, il n'y a pas de problème.
Mais faut qu'ils le vendent, vu le nouveau mode qu'ils ont créé pour ce jeu, faut qu'ils le vendent dans des instituts de Parkinson ou des trucs comme ça.
Oui, il y a ça aussi. Le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, les gens qui jouent au jeu de combat ne vont pas acheter cette console-là pour acheter ce jeu. Et puis, le troisième problème, c'est que le jeu a très mauvaise presse à cause de connards comme nous. Naturellement, c'est vrai que c'est pas très engageant comme ça. Au-delà des quelques problèmes qu'ils ont eu là-dessus, dont vous avez déjà parlé la semaine dernière.
Donc on peut dire que le Street Fighter Cross Tekken sur Vita, c'est le jeu qui a coûté plus cher en trailer qu'il n'a rapporté.
Ah bah là, pour l'instant...
Ah, carrément, ouais, en campagne...
Il faut juste rappeler que le jeu, entre guillemets, est relativement neuf. Enfin, relativement, voilà, il faut voir ce qu'il va donner.
Il y a Noël qui arrive, de toute façon.
Et voilà, bon là pour l'instant, il faut avouer que c'est un démarrage assez pourri. Capcom n'a pas communiqué dessus encore pour l'instant, enfin n'a pas commenté ses propres chiffres. Attendons de voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est pour l'instant, c'est bon. On a connu Capcom en meilleure forme.
Oui, c'est clair. Dernier point sur Street Fighter Cross Tekken, pour la version Xbox, il y a un glitch qui est apparemment en résolution. C'est un glitch qui en fait empêche d'accéder au store in-game. Dans le jeu, quand vous êtes dans le jeu, vous pouvez pas accéder au magasin et acheter des DLC. Vous êtes obligé de sortir du jeu pour les acheter, pour acheter vos costumes ou le reste en fait. Hein. Bon, c'est en correction et a priori, ça devrait arriver soit dans le gros patch, soit avant peut-être. On n'a pas encore.
Voilà, pourquoi un glitch et pas un bug du coup?
Parce que c'est le mot qui a été utilisé par
Capcom. C'est à la mode.
C'est à la mode de dire glitch. Ça fait.
C'est pas la même chose. Et là,
ça pour fait le swag.
Ouais, ça fait. D'accord.
Ah, il y a un jeune génération qui nous écoute. Voilà. on s'est mis à la page.
Voilà, on a notre petit dictionnaire. Alors, soit que c'est bon. Prochain mot, on va parler de Dead or Alive 5.
Ouais, on parle de Dead or Alive 5. Non, bah, c'est pareil.
C'est des chiffres, en fait, parce qu'on va parler pas mal de chiffres de vente, hein, j'ai l'impression.
Bah, c'est le bilan, même pour toi aussi, tu vois. On est obligé de.
Voilà, bah là, on peut officiellement dire qu'on a passé la barre des 4 auditeurs et vraiment, on vous remercie. Aux trois qui présentent Tosti. Donc voilà.
Alors combien Dead or Alive 5?
Dead or Alive 5. Alors 1 million de jeux vendus, c'était la prévision chez Tecmo. Ouais. Et donc là on est à un petit peu plus de la moitié, à savoir 585 000 ventes. Donc c'est peu par rapport aux estimations faites. Bon, après faut relativiser. Dead or Alive, c'est pas une licence qui est quand même hyper attendu par grand nombre de joueurs, mais
je nuancerais, enfin il y avait quand même toute une catégorie de joueurs qui l'attendaient quand même, hein. Les anciens joueurs avaient quand même envie de voir ce que ça allait donner, puis une fois de plus ils ont surfé, mais ça on en a déjà parlé, sur la vague Street Fighter 4, comme ça a été le cas de nombreux développeurs. Moi le chiffre entre guillemets il m'étonne pas, honnêtement je m'attendais à un truc entre 500 000 et 600 000 exemplaires, on est à 585, bon bah voilà, ils n'ont pas fini encore, le jeu va continuer à
se... Non, c'est pas terminé. Après il faut savoir que le jeu sort quand même un peu avant Tekken Tag 2, bon après Soulcalibur, mais de toute façon Soulcalibur c'est pas le jeu qui aurait empêché les ventes, mais je pense que la sortie de Tekken un petit peu après ça a peut-être
ça a joué à mon avis aussi,
ça a peut-être joué pas mal sur les ventes.
Beaucoup de joueurs se sont dit Dead or Alive ou Tekken, ils se sont posé la question.
Mais ils avaient pas à quel moment ils pouvaient le sortir d'autre, de toute façon. Enfin là.
Oui, non, mais c'est sûr. Après, ça n'a pas aidé. Bon, malgré tout, donc il y a quand même un patch qui est prévu là pour rééquilibrer le jeu. Alors, il y a pas de patch notes évidemment, puisque de toute façon là, en fait, il y a des demandes de retour auprès des joueurs qui sont faites, notamment par Twitter et d'autres voies de communication dont j'ai pas la liste. Mais bon, a priori, le jeu va être suivi encore par les développeurs afin de vraiment de répondre aux attentes des joueurs.
Juste, évidemment, ne vous attendez pas à des modifications complexes sur le jeu. Hein. Là, on parlera pas de personnages supplémentaires ou enfin, il y a rien de prévu là-dessus à ce niveau-là. On parlera éventuellement. Voilà, là, on parle d'un patch de rééquilibrage. Hein. Enfin, comme c'est souvent le cas d'ailleurs des jeux maintenant à l'heure actuelle, hein, on a un peu l'impression que tout ce qui est prévu dans le temps est déjà développé en même temps que le jeu et toutes les énergies sont mises après sur d'autres projets. Hein. Aux grandes dames de Capcom d'ailleurs, quand ils nous pondent un truc et que les hackers nous trouvent tout de suite les persos cachés ou les DLC ou etc, mais grosso modo c'est un peu ça, tout est prévu puis après ils font au fur et à mesure.
Ouais, sachant que vis-à-vis de ce patch, de toute façon, ils ont prévenu qu'ils écouteraient toutes les demandes, mais ils se concentreraient sur les demandes raisonnables qui changent pas l'esprit du jeu, l'équilibre du jeu réellement, mais vraiment qui changent tout ce qui est un peu trop pété ou toutes les animations qui sont un peu bizarres en fait. Donc ils sont à l'écoute effectivement, même s'ils veulent pas que les personnages changent de manière de jouer ou ou changent fondamentalement.
Je trouve ça assez logique d'ailleurs comme réponse, parce que si jamais ils sont vraiment fiers de ce qu'ils ont fait, il n'y a aucune raison qu'ils aient envie de tout changer. Et là, voilà, c'est pas pour enfoncer à nouveau Cross Tekken, parce que je veux pas, voilà, j'ai
plus tiré sur. On y revient quand même souvent.
On y revient souvent, mais c'est pour illustrer vraiment le fait que il y aurait pas tant de modifications que ça, ben Capcom le disait eux-mêmes, de toute façon, à un moment donné, s'il n'y avait pas eu tant d'erreurs au départ. Street Cross Tekken, c'est comme l'archétype des jeux avec plein de bonnes idées qui n'ont pas été exploitées, en fait. Un projet, ça se monte d'un point A à un point B. Là, je trouve que l'équipe de DOA5, ils sont cohérents.
Ah, et le feedback que vous pouvez faire, je reviens dessus, vous pouvez le faire dans n'importe quelle langue. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Aussi bien en anglais, en jap, qu'en français.
C'est assez rare, comme ça, que ce soit précisé comme ça, pour que nous, on vous le fasse passer comme info. J'ai trouvé ça très bien.
Voilà.
Et là, c'est le drame.
Bon, t'avais fini ta phrase, en fait.
Ouais. Mais il manquait un mot, peut-être, je sais pas. Le truc n'avait pas été jusqu'au bout. Non, le fait que j'ai trouvé ça très bien, ça suffisait pas. Il fallait que j'argumente derrière. Très bien.
Ouais, d'habitude, tu fais des phrases vachement plus longues et tu pars sur 10 minutes, type il va se faire un café et tout.
J'entame le Canon Spike. C'est... Justement, puisque nous parlons de ça, savez-vous que la Cicciolina, en 1985, avait entamé sa première carrière ? Pardon, excusez-moi. Donc
on dit... Et on va parler maintenant de Namco Bandai, en fait, notamment de Tekken Tag Tournament 2. Des ventes donc du jeu qui ont été annoncées, et le jeu a vendu 840 000 copies en Europe et au Japon. Ainsi que pour les US, il semble que par contre il s'est beaucoup moins bien vendu, il s'est vendu que 100 000 copies apparemment. Donc c'est vraiment bien en dessous des objectifs que s'était fixé Namco, qui était de 2 millions pour le monde, donc là on n'est même pas encore à la moitié.
Non, oui, c'est ça. Hein. Bah, du coup, c'est pareil partout, hein, grosso modo. Enfin,
ouais, y a une baisse partout. Ouais, c'est vraiment une baisse partout. Ce qui est étonnant d'ailleurs pour Tekken Tag 2, moi j'aurais pensé qu'ils se vendent beaucoup mieux.
Honnêtement, moi aussi. Autant là pour les chiffres de DOA, j'étais pas loin. Je voyais franchement Tag 2, je le voyais se vendre à plus que ça. En fait, j'imaginais là en fait qu'on serait au moins plus de la moitié de leurs prévisions.
Non, surtout aux États-Unis où c'est assez étonnant. Enfin, il y a quand même un gros public de joueurs de Tekken. Enfin, après, je sais pas. Faut nuancer toujours les gros joueurs et la communauté de joueurs et puis l'aspect plus global des joueurs qui vont acheter le jeu parce que ils ont envie de l'acheter sans objectif de compétition ou de choses comme ça derrière. Mais c'est vrai que 100 000 aux US, c'est quand même assez faible pour un Tekken. Quoi. Ah, enfin, ça me semble.
Bah, c'est quoi le gros jeu 3D qui est joué du coup aux US? Est-ce qu'ils sont 3D ou est-ce qu'ils restent sur du Marvel ou... Parce que c'est vrai que vu les chiffres des ventes, ils sont toujours en dessous de l'Europe et du Japon.
Bah, à part Tekken, je vois pas trop à quoi on joue aux US. Enfin, un petit peu de Soul Calibur, mais c'est vraiment les deux jeux qui reviennent en compétition.
Bah si, Marvel 3 quoi. Enfin, c'est...
Ouais, c'est pas de la 3D. Mais c'est pas de la 3D.
Je parle vraiment en 3D.
Ah
quoi,
bah ouais.
Non, il n'y a pas de. Ils mettent pas en avant dans leur dernier gros tournoi la 3D. C'est vraiment pas mis en avant. Contrairement à Marvel ou même à Cross Tekken qui est beaucoup plus poussé.
Ah bah là, pour le coup, oui.
Ah oui,
mais du coup, les objectifs de vente, là, ça se termine. Du coup, ça se termine vraiment au moment où ils ont publié les chiffres de vente actuels ou ils ont encore.
Non,
c'est sur l'année fiscale,
je sais pas. Faut voir aussi qu'il y a d'autres jeux, sous le Calibur 5, on en parlait. Sur les six derniers mois, il a vendu 680 000 exemplaires. Donc au total, ça monte tout doucement. Mais c'est vrai que du coup, il n'y a pas l'engouement qu'on avait à la sortie de Street Fighter 4 pour les jeux de combat, les premiers qui se vendaient super bien. On n'est plus sur cet engouement, on est vraiment sur la fin de la période où tout le monde achète des jeux de baston.
Et pour revenir sur ce que dit Kaldan, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ces chiffres-là, effectivement, sur des graphiques, parce qu'on se rend vraiment compte, en fait, de la courbe de progression qui marche des fois dans un sens et puis des fois dans l'autre. Tu vois des pics à certains moments, et puis après, ça se casse la figure. Et puis, tu vois que le marché de l'occasion, derrière, reprend justement ses droits. D'où, à mon avis, le fait que ces grosses boîtes-là commencent à regarder comment vraiment contrecarrer le marché de l'occasion avec tel ou tel façon de faire avec le dématérialisé avec etc.
Donc vous trouverez sur l'article du Toasty un lien vers un PowerPoint à télécharger réalisé par TMDJC
avec je te déteste et je tiens à dire que je te déteste, voilà.
Ah, t'imagines le boulot rassembler tous les chiffres.
Tu peux faire une version camembert, moi j'aime bien.
Allez, arrête des graphiques en barre.
Tu peux faire une version Excel qu'on puisse le télécharger et modifier nous-mêmes.
Avec les noms des gens qui ont téléchargé et qui sont inscrits sur Bagropo.
Voilà. Ça va être rapide à faire.
Ouais, on va parler des jeux maintenant. On va arrêter de parler de chiffres et de bourses. Tekken Tag Tournament 2, puisqu'on parlait de lui, il y a le patch qui est normalement sorti au moment où vous écouterez Stosti. Et alors, Tib, est-ce que tu peux nous parler de ce patch? Je ne sais pas si tu as eu le temps de le tester.
Alors, j'ai pas testé le patch puisque j'ai pas lancé le jeu. Enfin, en même temps, chaque semaine, à chaque fois qu'on parle d'un jeu, je dis que j'ai pas lancé le jeu depuis longtemps. Et effectivement, Tekken Tag 2, j'ai pas lancé le jeu depuis le patch. mais donc en fait, oui, il est en ligne depuis le 3 novembre. Et donc a priori, donc il y a des changements sur le mode, surtout pas mal de changements sur le mode en ligne pour le mode ranked notamment. Notamment sur les recherches en fait de matchs en mode ranked. Et c'est plus facile maintenant de se retrouver avec des matchs. On peut affiner en fait les recherches par rapport au rang qu'on a et au rang qu'on recherche. Donc il est plus simple de se retrouver avec des gens qui ont à peu près le même niveau que soi. À côté de ça, on peut mettre une limite de matchs de victoire en fait par joueur sur player match. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des lobbies qui vont tourner peut-être plus facilement. Si un joueur atteint un certain nombre de victoires, il va passer son tour et donc on va passer au joueur suivant, etc. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis, d'autres petits changements aussi.
Je crois qu'ils changent le décor également, si ce n'est pas dans le message. Le décor où il y a écrit le nom de Dieu en arabe sur le sol, là, tu sais, dans l'Arabie Saoudite.
D'accord, oui, effectivement, le page dont on avait, enfin, la petite modif graphique dont on avait parlé la semaine dernière.
Voilà, donc, par contre, il y avait un lecteur, enfin, un membre sur le forum là, qui posait la question vis-à-vis des personnages qui devraient arriver. Ils sont pas dans ce patch-là, donc ils sont pas encore en DLC. Ils devraient arriver sous peu parce qu'à l'origine ça avait été annoncé pour novembre-décembre, et d'ailleurs c'est en train de se rapprocher puisqu'il y a des vidéos de Dr Boskonovic, c'est ça le nom ? Chaque fois je me trompe. Le personnage.
Oui, si, c'est ça.
Il y a une vidéo qui est arrivée, il me semble, dimanche ou lundi. Donc aujourd'hui, là, on enregistre. et donc, ça devrait arriver d'ici la fin du mois ou le mois de décembre, en tout cas.
Voilà. Et en plus de ça, on a eu des screenshots de la version Wii, en fait, qui montrent. Alors, sur la version Wii, il y a une petite feature sympa, en fait, sur les costumes que vous pouvez faire pour vos personnages. Vous pouvez avec la tablette de la Wii U en fait dessiner sur les skins de vos persos directement. Et donc on a eu des petits screenshots dédiés à Halloween là, avec des petites citrouilles dessinées sur Panda, des choses comme ça. Bon, c'est rigolo. Et puis effectivement, bon, alors moi je pense qu'on va vite arriver, il faut le dire, hein, je pense qu'on va vite avoir des bits dessinés sur les persos. Hein. Ça,
ça c'est la première chose que je vais faire.
Et je pense que ça me donne envie d'acheter une Wii U. Je rêve pour ça. non, il y a ça, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a le stage avec Snoop, des choses comme ça. Enfin, les costumes.
Il y a un costume de Snoop effectivement.
Ouais, un costume de Snoop et puis bon bah les costumes dédiés à la Wii U avec Mario, Luigi, Toad, etc. Donc voilà, la version Wii U sortira peu de temps après la console.
Ah, ça serait la meilleure version si elle était cross-platform ou compatible avec des sticks normaux.
Bah, les sticks, a priori, il y a des sticks. Alors j'ai vu un stick Wii U Ori.
Ouais, ils ont annoncé ça cette semaine d'ailleurs, il me semble.
Ouais, et vu que bah, c'est dans le journal du Hardon, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, un petit teaser comme ça, on est fou.
Tout de suite, après la pub.
Et maintenant, nous allons parler de P4U, Persona 4 Arena.
Ouais, bah écoute, je vais m'en charger puisque c'est un peu le running gag de Persona 4 Ultimate Mayonaka. Donc on attendait le jeu en version disque éventuellement pour la fin de cette année. C'est raté.
Bah ça y est, ça a été annoncé officiellement, ce sera pas en 2012.
Voilà, c'est raté. Donc oh là là, grande surprise, ce sera pas pour 2012.
Ouais, il y en a qui espéraient encore. Hein.
Ouais, c'était un petit peu la blague qu'on se disait. Est-ce qu'on va y jouer cette année ? Peut-être que Persona sortira avant Final Fantasy versus 13 ou des choses comme ça. Mais a priori,
les joueurs PlayStation qui ont la rage parce que le jeu est zoné. C'est le seul jeu qui est zoné
sur leur console. Ouais, mais voilà. Voilà, là on peut dire qu'Atlus ça fait fort. Donc on avait aussi des rumeurs comme quoi il y aurait une version XBLA, enfin pas XBLA mais sur le Xbox Live, une version dématérialisée du jeu pour le 6 septembre, 6 novembre pardon.
C'est toujours prévu.
Oui, alors il semble que ce soit pas chez nous mais...
Bah ça on sait pas, hein, vu les couacs autour de ce jeu, si ça se trouve ils vont le mettre dispo chez nous, et là ça sera un gros doigt dans le... l'éditeur qui n'a pas pu sortir son jeu. En tout cas c'est ce que je vais faire, quand le dossier sera sorti on verra tout de suite, ce sera déjà passé, mais ouais. Et si le jeu était disponible je l'aurais acheté, et puis il est hors de question qu'on mette de l'argent dans cette version disque qui arrive 6 mois trop tard. Le jeu il est mort-né là en France.
Non, mais ah, mais oui, de toute façon oui.
Non mais comment, façon, là, voilà, comment tuer encore un jeu, enfin bref, c'est vraiment...
Mais il y avait quand même une attente auprès des
joueurs.
Mais
c'est ça, c'est-à-dire que t'as des gens vraiment, enfin t'as un public, alors c'est pas, faut relativiser, c'est pas non plus le jeu que tous les joueurs attendent, etc. Mais quand t'as un public comme ça, enfin je comprends pas, je comprends pas. Et commercialement, aujourd'hui les ventes sont de plus en plus dures quand t'as des gens qui sont prêts à acheter tout de suite, enfin
ouais, je sais pas. Faut vraiment capitaliser sur l'attente des joueurs. Quand le jeu, il y a un petit peu de bruit autour sur les sorties américaines, japonaises. Là,
la hype et puis c'est parti. Ouais, quoi.
Ça va complètement retomber. Dans 6 mois, plus personne entendra parler du jeu, n'en parlera. Il n'y aura plus de tournoi, il n'y aura plus de vidéo, il n'y aura plus rien. Et puis voilà. Quoi. Alors après, est-ce qu'on peut mettre ça en relation avec la sortie l'année prochaine de Persona 4 sur Vita notamment ? Parce que Persona 4, la version RPG du jeu doit sortir sur Vita. Est-ce que peut-être ils essayent de lancer le jeu de baston chez nous en même temps pour rebondir sur le truc ? Je sais pas, mais c'est vraiment de la spéculation. Mais en tout cas, à mon avis,
c'est pas con comme idée. Pourquoi pas, hein ?
Mais c'est de toute façon là pour l'instant, on peut pas y jouer. Et puis voilà. prochain épisode dans quelques temps.
Bon, c'est pas grave, hein, on fera avec. Hein.
On va jouer à Guilty. Hein.
On va jouer à Guilty. Ça se trouve, le patch de plus R sortira en même temps que la version de Persona 4 et plus personne jouera à Persona et puis voilà.
Voilà, comment tout faire pour vraiment foutre en l'air le jeu.
Voilà, donc maintenant on va passer à un autre éditeur, ou plutôt à autre chose. On va parler de la Neo Geo X qui est désormais en précommande.
Alors, pas partout. Hein.
Pas partout, en France notamment, on peut pas l'acheter officiellement. Voilà. Officiellement, par contre, elle est en vente un peu partout dans le monde. Elle vaut 200$, ou l'équivalent en devise locale à peu près, avec des fois des taux de conversion plus ou moins généreux. Et le stick tout seul est vendu à 69€. Voilà. 69€, donc voilà, c'est toujours
c'est pas honnête.
pour la Connectix qu'il en est, mais les prix sont honnêtes, ils sont corrects. Mm-hmm. Et bon, j'espère qu'on aura l'occasion de la tester et de vous en reparler.
Si jamais la sortie en France se fait un peu désirer, je regardais les rapports qualité-prix, notamment sans faire trop de pub sur Amazon avec les frais de port, ça vaut le coup. Hein.
Amazon.com?
Ouais, enfin la version États-Unis, oui, tout à fait.
Ouais, parce qu'il n'est pas dispo sur Amazon UK.
Ouais, non, ni la version française, bien sûr.
À voir si on peut commander sur Amazon.com.
Ils sont plus chiants maintenant. Avant,
alors, pouvait... moi, j'ai regardé pour l'instant l'annonce par défaut, parce qu'il y a plusieurs annonces, a priori, ne bloque pas l'accès vers la France. D'accord. Parce que tu sais, il t'exprime le fait que.
Ouais, il y a certains produits que tu peux pas acheter.
Voilà, donc là, bon, moi j'ai fait mon test, je n'ai pas validé mon achat, donc je peux pas vous garantir que, mais bon, de toute façon, je pense qu'il y en a qui feront le test. Mais voilà pour la petite.
De toute façon, Amazon rembourse si jamais il y a un problème et qu'ils peuvent pas livrer. C'est parmi les plus draconiens en termes
de conditions générales. Oui, là-dessus, ils sont vraiment très bien. Bah, ça fait partie des rares avec qui j'ai jamais eu de problème, par exemple.
Bah, j'en ai eu, moi, mais justement, c'est quand il y a des problèmes que tu te rends compte du SAV. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de. C'est pas pour leur faire de la pub, hein, mais c'est vrai qu'en termes de SAV, surtout quand ils travaillent avec des vendeurs tiers, ils sont tellement exigeants que les vendeurs tiers, en fait, bronchent même pas. Il y a même eu des histoires, d'ailleurs, à cause de ça, puisqu'il faut suivre absolument leurs règles. Sinon, t'es déréférencé et tu peux plus vendre par Amazon.
Donc voilà,
s'il y a des lecteurs courageux pour commander la Neo Geo X sur Amazon.com, n'hésitez pas à nous faire un petit retour.
Un petit feedback.
Et on va parler maintenant, Tibbs va nous parler de Chaos Code.
Chaos Code, oui, alors encore un jeu qui va intéresser 4 personnes. Donc Chaos Code, donc, c'est le jeu où on a un cuistot encore plus pété que le Fuerte. Un mec qui se bat à coups de wok et tout ça, avec une moustache complètement dantesque. Donc Chaos Code, en fait, va sortir sur PS3 et sur le PSN, en fait, d'ici la fin de l'année. Donc, alors, PlayStation Network, je ne sais pas si on aura la même chose sur le PSN européen. A priori, rien n'indique le contraire. En tout cas, c'est prévu pour la fin de l'année. Le jeu est assez rigolo. Enfin, c'est marrant à regarder. C'est complètement what the fuck, quoi. Ça part dans tous les sens. Les persos ont vraiment un design et un gameplay particulier. Enfin, le gameplay non, mais les coups spéciaux sont complètement fumés. Enfin, c'est vraiment drôle. Après, faut voir le prix. On n'a pas d'indication, mais ça peut être rigolo. Enfin, si vraiment le jeu sort à un prix accessible, pas trop cher et tout ça sur le PSN, ça peut vraiment être fun avec des potes de jouer sur ce jeu. Donc voilà, sur le PSN d'ici la fin de l'année, on aura le temps d'en reparler. Allez acheter un coup d'œil sur les vidéos, c'est vraiment rigolo.
Et voilà pour Chaos Code.
C'est tout, j'avais terminé.
On va parler maintenant d'un jeu qui est déjà sorti par contre chez nous un peu partout. Et c'est Skullgirls en fait. On attend toujours le patch. Toujours le patch de Skullgirls. Et toutes les semaines, Mike Z nous en remet une couche et nous en parle. J'ai l'impression que ça se rapproche quand même là, puisqu'il y a eu. Le patch a l'air définitif, puisqu'à chaque fois il rajoute des trucs, mais là je vois pas ce qu'il peut rajouter d'autre. Vous avez regardé ou pas le patch en question?
Ouais, bah alors, enfin là je suis en train de survoler, enfin ouais, de vraiment survoler le.
Je l'ai lu en entier, enfin sauf pour les personnages où des fois il y a des trucs où on s'en fout complètement. Mais j'ai lu en entier, il y a un changement. Alors si quelqu'un, un éditeur, pourrait nous expliquer dans le détail qu'est-ce que c'est le pom-pom dont il parle dans son message. Ou peut-être que vous savez de quoi on parle quand on fait un bloc. Il y a un block stun apparemment quand on met quand on bloque, quand on utilise le mécanisme spécial pour bloquer, tu sais, pour repousser l'adversaire.
Ouais.
A priori, il a amélioré le. Maintenant, qu'est-ce que c'est, j'en sais rien. Bon, bah, sinon, à part ça, il y a la liste de coûts. Il y a plein d'options en plus, énormément d'options en plus. Il y a plein de bugs corrigés. Les bugs de compatibilité, notamment entre les différentes versions entre les pays. Vous avez un mode tournament. Vous avez donc beaucoup plus d'options de training. Et vous avez notamment des trainings perso par perso qui vous expliquent les spécificités des persos. Donc, il y a les loadings qui ont été améliorés. Donc, ils sont beaucoup moins longs.
Ouais, ouais.
Y a pas mal de choses au niveau de la gestion du 50 Hz, notamment. Ça gérera bien le 50 Hz.
Une vraie traduction française, non, je déconne.
Non, faut pas déconner. Attends, on peut laisser des mélanges, hein, ça fait partie du folklore du jeu. Donc, il y a le changement de l'IPS dont on avait déjà parlé avant, donc avant qui était assez permissif. Surtout si on rentrait dans le détail, on pouvait faire des presque infinites. Maintenant, ça a pu être le cas. Il y a l'augmentation de vitesse du jeu également. Enfin, il y a pas mal de choses. Quand est-ce que tu sors? Voilà, c'est la question qu'on demande. Si ça se trouve, le jeu sortira un jour. Non, on ne sait pas quand.
On ne sait pas quand. Et sur PC aussi, éventuellement.
Bah, a priori, le patch inclut le cross-platform également entre la version PS3 et la version PC.
Ben ouais, c'est surtout ça du coup qui est intéressant. Le problème c'est que le jour où il sort, effectivement, il y aura peut-être plus personne sur le jeu.
Il faut qu'il relance la sortie du jeu parce que.
Non, mais il faut qu'il trouve quelque chose. Là, de toute façon, à l'heure actuelle, moi, à chaque fois que je me lance sur Skullgirls, je cherche quelqu'un.
Ben, ça sert à rien, il n'y a personne.
Non, mais il faut être très sérieux, quoi, parce qu'on a beau cracher sur Street Cross Tekken, quand tu veux jouer avec quelqu'un, il reste du monde.
Ouais, c'est pour ça que c'est des jeux qui sont très bien online, comme Street Fighter 4 et Cross Tekken. L'avantage, c'est que tu trouves toujours quelqu'un en ligne. Va tester sur Virtua Fighter, sur Skullgirls.
Ouais, voilà, pareil.
Ouais, je te parle même pas des vieux jeux, des KOF, des anciens Wolf. 3-3, tu peux trouver et encore. Mais
il m'est arrivé un truc bizarre sur KOF 12 il y a pas si longtemps que ça.
J'allais parler de KOF 12, c'est bon.
Mais parce que je voulais terminer tous les, tu sais, moi je suis un peu un malade, moi quand je fais un jeu, j'aime bien finir
avec chaque perso. Ouais.
Voilà. Tu veux tous les succès, et comment tu fais pour avoir les succès, gagner 10 matchs en ranked d'affilée?
Eh ben c'est chaud.
Personne en ranked.
C'est chaud, mais en fait tu trouves des, en fait t'as des gens, t'as l'impression en fait que c'est pareil, ils sont un peu comme moi,
ils sont comme toi.
Branchés leur manette sur auto. Parce que les personnages, ils arrêtent pas de faire les mêmes mouvements tout le temps, ce qui est assez facile pour les battre.
C'est l'IA de KOF 12 de l'ordinateur. C'est exactement ce que fait l'IA. Je sais pas si t'as essayé.
Tu la mets en pied fort tout le temps.
Ouais, elle fait toujours ça. Sur KOF 12, sur KOF 13, elle est un peu mieux, mais bon, elle est pas terrible non plus.
Mais je veux dire, quand tu bats online contre des gens.
Non, offline.
T'es trompé, tu jouais pas online.
Non, je jouais online. C'est pour ça que je trouvais ça dingue. Donc le. Parce que l'IA, elle n'est pas extraordinaire de KOF 12, mais ils font pas tout le temps les mêmes.
Peut-être que l'IA des joueurs qui jouent à KOF 12 n'est pas extraordinaire.
Oui, je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est plus ça le problème.
Pour jouer à KOF 12, faut pas exagérer non plus, quoi.
Peut-être que c'est Jojo qui a mis un de ses enfants devant KOF 12. Et puis voilà.
Ou Jojo lui-même.
Ou Jojo lui-même, ouais. C'est la raison pour laquelle il s'appelle pas Jojo The Skill. Pour Skullgirls, je crois qu'on a fait le tour, mais c'est vrai, effectivement, ce patch il est attendu et j'espère qu'il y aura une promotion à l'américaine quand il va sortir parce que c'est un jeu qu'il mérite vraiment.
C'est dommage, franchement, c'est dommage. Ouais, bon, bref, de toute façon, vous savez ce que je pense du jeu, hein, mais
ouais,
c'est vraiment dommage.
Alors, on se demande vraiment, alors les persos en DLC, si un jour il sort, ça va être quand?
Ouais, enfin là, tu sais que je commence à me dire que les persos en DLC, il y en aura peut-être un parce qu'il était quasiment fini, mais.
Ouais, à côté de ça, ouais. Ça va être assez compliqué. Bon, quand même. Façon, ouais.
Je vois pas pourquoi ils remettraient. Enfin, à moins qu'ils arrivent à nous sortir un truc, que le patch vraiment relance le jeu, j'y crois honnêtement tout de suite pas un seul instant. Je vois pas pourquoi ils perdraient leur sous à faire un DLC qui se vendra pas.
Hum, hein. C'est clair, faut dire que la base de jeux à l'heure actuelle, le patch ne va pas faire vendre beaucoup plus de jeux qui s'en est vendu jusqu'à maintenant. Hein. Donc, à part la version PC qui va sûrement booster un petit peu les ventes, mais sinon, ça n'ira pas plus loin que ça. Et continuer à développer dessus, c'est clair que c'est.
Le seul truc pour que s'en vende un peu, ce serait de faire vraiment quelque chose autour, médiatiquement fort autour du jeu, que le DLC du nouveau personnage soit gratuit, donc ce qui leur coûterait super cher, et de casser le prix du jeu pour donner envie aux gens d'acheter la nouvelle version avec le nouveau personnage, quoi. Mm-hmm. Et ils ne feront pas.
Bon, on ne sait pas, on verra. Mais là, je pense qu'ils découvrent que vendre un jeu ça coûte de l'argent et qu'ils n'avaient peut-être pas forcément prévu ce budget-là. On aura peut-être un Kickstarter, hein, on ne sait pas.
C'est jouable.
Alors, bon, on va passer à un gros éditeur cette fois, des gens qui ont de l'argent. On va parler de Sony. Sony, ouais. Avec PlayStation All-Star.
PL-O-O-O-Tsar, comme on dit.
All-Tsar, oui.
Comme on dit en Russie.
Comme on dit en Russie. Pourquoi on parle de la Russie ?
Eh bien, parce qu'en Russie, en fait, le jeu a eu le droit à un trailer, enfin une pub du moins, sur le jeu, absolument, absolument extraordinaire. Avec des gens cosplayés en tous les personnages du jeu, Fat Princess, Rashtet et tout ça, un Kratos totalement, totalement musclé comme il faut. Et donc voilà, c'est assez rigolo, il y a une petite pub, donc on sait déjà que les Russes auront le droit au jeu aussi, ce qui est bien. Et donc c'est assez rigolo, mais
avec Kratos
à côté de ça,
la princesse, elle est trop forte.
Ouais, mais j'ai pas pu, je sais même pas si elle est dans la bêta. Tout ça pour dire qu'en fait Seth Killian aussi a annoncé que la bêta continuerait quelques jours. Donc quelques jours, ça peut être terminé au moment où on vous dit ça. Comme ça peut continuer, en fait on sait pas trop, mais il va y avoir des upgrades en fait sur le moteur, enfin sur l'online du jeu, et donc la bêta continue pour un petit peu tester tout ça, surtout au niveau, je pense, côté serveur et compagnie, pour ajuster ça au mieux avant la sortie du jeu, et donc voilà, vous pouvez continuer à jouer gratuitement avec les 7 ou 8 persos de la bêta, et puis c'est toujours rigolo, en tout cas sur le support Vita.
Moi j'aime bien l'idée, puis si jamais t'es confiant dans ton jeu, c'est le meilleur moyen de le faire vendre.
Ah oui, complètement. De toute façon, la bêta c'est vraiment un moyen parfait pour faire patienter les joueurs, leur donner suffisamment de contenu pour qu'ils puissent voir un petit peu les capacités du jeu, en laissant suffisamment de côté aussi pour donner envie d'acheter la version complète.
Ouais. Après, ça peut être à double tranchant. Hein. Si les gens n'aiment pas, ils achèteront pas le jeu.
Bah, c'est un double tranchant, mais c'est à toi. Enfin, si jamais tu fais quelque chose de, enfin voilà, un jeu comme Street Cross Tekken, ça en serait parmi, par exemple.
Pourquoi toujours
cette mauvaise langue?
Non, mais là, c'était juste pour faire chier Captain Algérie, que j'embrasse au passage.
Sinon, à côté de ça, il y a une interview sur Siliconera, je crois, d'un designer de ce jeu. C'était quoi cette interview? Oui, c'était en fait, c'était sur la conception du jeu. La conception du jeu, l'interview décrit le processus de création du jeu, et on apprend pas mal de choses intéressantes, notamment sur le fait qu'à la base, le jeu a été conçu d'abord sur le concept de rassembler tous les personnages, avant de savoir quel va être le gameplay. On avait ce concept-là qui était prévu, et le jeu au départ, quand ils ont voulu lancer le prototype, c'était un capture the flag, en fait, par équipe de 4. Par équipe de pattes, et certes, et pas du tout un jeu de combat. Et ensuite, ils sont venus à avoir une idée originale et passer sur l'idée du jeu de combat pour faire quelque chose que personne n'avait jamais fait. Et puis,
réunir tous les personnages comme ça, clairement, ça n'avait jamais été fait avant. Enfin, l'idée vraiment est vraiment originale pour le coup. Puis, alors, de transformer ça en jeu de combat, moi, je leur tire mon chapeau. Déjà, il fallait avoir les couilles de le faire parce que, à l'heure actuelle, bah, moi, je dis bien. Vraiment. Et puis voilà, le jeu de combat reste un sous-genre, et vraiment, d'avoir eu cette idée-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeux derrière qui ressembleront à ça. Il y a eu un avant et un après Street, il y aura un avant et après PS All-Star, c'est certain.
C'est sûr. De toute façon, je pense que il y a des chances que Nintendo copie le truc. Hein,
Nintendo a l'air très intéressé. J'ai entendu parler de ça. En fait, ils ont une idée de mettre. Comment il s'appelle le plombier là? Tu sais, le mec qui est en rouge.
Alberto.
L'idée, ce serait de faire un truc comme ça en fait, avec le gameplay serait simplifié d'après ce que j'en sais.
Mm-hmm. De toute façon, Nintendo, c'est des jeux pour les gamins.
Ouais.
Pour les gamins prépubères qui aiment bien les blondes avec des fortes poitrines comme dans Under Night in Birth.
Oh, cette transition, mais alors là, c'est du grand art.
Non, mais c'est du jojo là, bravo.
Je savais pas comment faire la transition, pardon.
À vous qui t'as filé ces fiches.
Il m'a donné 2-3 astuces, ouais, effectivement. Non, tout ça pour dire que dans Under Nighting Burst, on va dire Unib, vous avez le jeu qui est passé en version 1.02. Avant, il était en 1.01.
Ouais, ça, c'est absolument dingue. Je m'en étais même pas rendu compte, toi, qui était passé.
Alors, il y a un patch message qui est long comme. qui est long, mais sur le sens de la largeur, pas sur le sens de la hauteur. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule ligne qui est vachement longue. Vous pouvez désormais jouer Hilda. Voilà, c'est ça la nouveauté. C'est la nouveauté. Donc, Hilda est jouable dans Under Nighting Burst et vous avez quelques screenshots ou des vidéos qui vont commencer à tourner, à mon avis, d'ici peu.
Bon, ça, à nouveau, c'est pas une grosse surprise. Hein. On savait qu'Hilda serait jouable. Donc, voilà. C'est arrivé assez vite. Et puis voilà, mais le jeu reste vachement agréable à regarder. Enfin, en tout cas, je suis. Il y a pas mal de tournois au Japon, du coup, comme le jeu est vraiment bien lancé, là. Il y a pas mal de vidéos de tournois et du coup plein de gros joueurs japonais qui jouent notamment chez Arxis, enfin sur les jeux Arxis d'habitude sont sur ce jeu là aussi et c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. Bah, alors, par contre, il y a quelques persos encore des combos de 8h, 8h12, mais sinon le jeu est vraiment sympa.
Disons que si on est féru de ce genre de gameplay, c'est entre guillemets le jeu du moment qui vous faut. Moi, c'est pareil, c'est vrai que je suis pas trop fan des combos qui sont trop longs, mais c'est super impressionnant à regarder.
Mmh. Ouais, complètement. Donc, faut vraiment espérer que ce jeu arrive chez nous un jour, déjà, pour espérer, et puis assez vite si on peut.
Ah, sûrement sur PlayStation 3, hein. De toute façon, ce sera.
Ouais, globalement,
Sony avait participé, je crois, ou est impliqué, je crois, dans le projet Under Nighting Burst, non?
Aucune idée.
Ça, c'est une bonne question, mais globalement, de toute façon, les gros jeux, la plupart des jeux joués un minimum au Japon sur arcade sortent, on peut le voir notamment avec Chaos Code et puis Aquapazza et tout ça, sortent sur PS3 effectivement après, du moins au Japon.
D'accord, ouais. Donc puisqu'on parle de PS3, on parle de Blu-ray et de 3D et donc de films, et on va parler donc du... Alors, celle-là, je vais lui rendre la fiche, ça se va. On va parler maintenant du film Mortal Kombat.
Oui.
Mortal Kombat.
On a le budget. Bravo. Du film. Enfin, nous, ouais. Non, hein.
Non, on l'a pas, sinon on serait pas là, je pense.
Mais on a les chiffres, c'est déjà bien. Donc il paraît qu'il sera entre 40 et 50 millions de dollars.
Mmh. Oui, c'est ça, c'est ce qui a été annoncé. C'est le directeur exécutif Kevin Tanchor-Rowan.
Alors, ouais. J'ai envie de dire que c'est un chiffre entre guillemets honorable. Parce qu'en fait il y a des films qui coûtent des millions et des millions aujourd'hui à l'heure actuelle et puis d'autres beaucoup moins. On va dire que pour la licence que c'est, 40 à 50 millions c'est un bon budget. Bah, après il faut voir comment ça va être exploité.
Le premier film de combat qui avait 18 millions il me semble.
Alors, par contre avec 50 millions de dollars ça veut pas dire qu'ils vont faire... Enfin il y a d'autres films qui ont eu ce budget, 50 millions de dollars.
Oui.
Notamment La Légende de Chun-Li. Street Fighter, La Légende de Chun-Li, voilà.
Ouais,
50 millions de dollars de budget, on voit ce que ça a donné.
Je me demande même si c'était pas plus que ça, c'était pas autour de 60 millions de dollars, c'était pas 57 de mémoire, une connerie comme ça.
Bah, a priori, c'est environ 50 millions d'après les chiffres que j'ai sous les yeux.
C'est quand même une grosse merde ce film. Hein. Moi, j'ai quand même besoin de réappuyer dessus.
T'as pas le budget de King of Fighters
Ça doit être trouvable ça. Budget KOF.
Bah, c'est surtout engager des acteurs d'une origine totalement opposée à celles qui sont dans le jeu.
Alors, c'est ça qui a dû coûter le plus cher. Yuri et Mai, par exemple.
Par exemple. Non, pour revenir sur les... Oui, effectivement, comme disait Kaldan, 50 millions de dollars, c'est trois fois plus que le film original. Maintenant, il faut remettre les chiffres dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'en 95, un film de 18 millions de dollars, c'était déjà... pas mal. Aujourd'hui, 50 millions de dollars, c'est pas non plus extraordinaire. Enfin, c'est un bon chiffre pour un film basé sur un jeu de combat. Mais
Le film KOF, c'est tout pourri, hein, parce que c'est 12 millions seulement. Hein.
12 millions quoi d'entrée ?
De dollars.
Ah, dollars, tu m'as fait peur.
non, quand même pas, non, ils sont largement en dessous en termes d'entrée.
12 millions de DivX téléchargés, peut-être, mais.
Et encore, je pense que les mecs qui ont le téléchargé n'ont pas vu la fin.
Du coup, parce qu'on est en pleine discrétion, mais pour vous, quel est le pire film du coup, KOF ou Legend of Chun-Li? Parce que franchement, c'est deux daubes.
Je sais pas, je dirais KOF.
C'est compliqué. Bah, disons que KOF, moi, je prends du plaisir à regarder KOF. Pour la dope que c'est.
D'accord. Alors, sachant qu'il y en a un qui a coûté donc, entre 50 et 60 et l'autre 12, et qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, quel est le pire film?
Je sais pas.
La légende de Chun-Li, justement pour les raisons que j'évoquais juste avant, la légende de Chun-Li, c'est un film qui se prend totalement au sérieux et qui est vraiment minable. Quoi. Enfin, KOF se prend totalement au sérieux aussi, mais n'est pas pris au sérieux en fait par les gens qui le regardent.
Ouais.
Je pense que c'est la différence.
Mr. Big qui est blanc, Bison dans le street qui est blond. Ah ouais, j'ai bien aimé le Vega qui est Griff, pour être sûr qu'on parle du même personnage, qui est moche et qui se cache derrière un masque. Parce qu'il est moche aussi. C'est complètement respect du personnage.
C'est en totale adéquation avec l'histoire originale.
T'avais déjà joué au jeu? Bah non, pourquoi? Non, c'est juste que le film est tiré du jeu. Donc je m'étais dit qu'avant d'écrire le scénario, t'aurais pu regarder de 3 pages, je sais pas. Enfin, vite fait quand même, non?
Non, on s'en fout.
Ils sont trop forts.
Bon, bah, on va arrêter de parler de ce film. Donc Mortal Kombat, on attend de voir le film. Mais bon.
Voilà,
avec un budget comme ça, j'espère qu'ils vont pouvoir engager un vrai scénariste et faire quelque chose de plus correct que ce qui se fait d'habitude.
On va dire un bon film, nous sommes d'accord.
Ouais, mais il n'y a pas besoin que le scénario soit vraiment, vraiment excellent pour que le film soit bon, c'est une combinaison de facteurs.
Ouais.
Après, il faut qu'il soit divertissant, il faut qu'il soit pas trop con. Mais c'est tout.
Oui, c'est ça, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Je pense que le film sera intéressant si ça contente... un petit peu tout le monde en restant dans
une histoire crédible. Il y a une histoire.
Ouais, voilà.
Il y a des ninjas, tu peux pas te tromper avec les ninjas normalement.
Ouais, non, ça c'est bon. Ceci dit, pour remettre les choses dans le contexte, The Legend of Chun-Li a réussi quand même à faire quelque chose que n'avait jamais réussi à faire aucun autre film, et on lui doit au moins ça. Il a rendu le premier film Street Fighter culte et vraiment bon. C'était quand même pas donné. Tout le monde critiquait le premier film, tout, etc. Les gens sont revenus, il y a même eu des sketchs dessus. On peut remercier. Enfin, Van Damme doit beaucoup au deuxième film, je pense. Hein.
Ouais, il y a pas mal d'autres de ses productions, ouais.
Qui doivent à Street Fighter.
Non, mais c'est vrai que c'est tout un personnage. Tu peux pas dissocier Street Fighter de Kickboxer, de Van Damme, de ses interviews à la con. C'est vraiment le personnage en lui-même.
Ah, non, ne commence pas à dire que ses interviews sont dans la con. C'est un peu mon mentor, Van Damme. C'est
ceci explique cela, effectivement. Bon, à force de parler de l'état psychique de TMDJC, j'essaye de trouver ma transition. Alors là, on va parler d'une chose. Alors, c'est pas un jeu de baston standard. C'est Taito qui a annoncé la sortie d'un vieux classique. Alors, je sais pas si nos auditeurs connaissent bien ce jeu. C'est Psychic Force 2012 qui arrive sur Nessica Live. Donc là, je suis en train de danser devant mon écran quand j'ai vu cette annonce. Est-ce que tu connais le jeu, Tibbs? Est-ce que tu as déjà joué à Psychic Force?
Alors, quand tu m'as parlé du jeu tout à l'heure, avant le Toasty, effectivement, Psychic Force, ça me disait vaguement quelque chose. Et maintenant, quand je revois les images, oui, ça me parle bien. Psychic Force, c'est un espèce de... C'était sorti sur quoi d'ailleurs? Sur PlayStation ou sur Saturn?
Peut-être sur Saturn, je sais pas. Moi, j'y jouais sur PlayStation, effectivement. Il y avait plusieurs versions. Là, c'est la version 2012 qui me semble être une nouvelle version. En gros, le principe du jeu, c'est que c'est un jeu de combat où vous avez deux personnages qui sont dans une arène, qui peuvent se déplacer en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, il n'y a pas de sol et de saut ou quoi que ce soit. Et les personnages ont des coups spéciaux différents chacun, avec des combos différents, des timings différents, des vitesses différentes. Il y a des personnages qui peuvent ralentir ou stopper le temps, des personnages qui peuvent poser des miroirs et envoyer des rayons ensuite dessus qui se reflètent. Et donc, l'ennemi doit slalomer pour les éviter. Donc, c'est vraiment un jeu de assez technique et très plaisant à jouer, avec plein de personnages différents et un gameplay unique.
Ouais, et non, mais c'était assez spécial au moment où c'est sorti. C'est vrai que revoir le jeu revenir sur Nezika actuellement, c'est assez rigolo parce que le jeu était vraiment différent de tout ce qui se faisait à ce moment-là en termes de jeux de combat. Et celui-ci, celui-ci est vraiment sympa. Une identité visuelle vachement, vachement particulière. Enfin, c'est très manga années 90 et du coup, c'est rigolo, quoi.
Ouais, c'est un scénario de manga avec des personnages gentils, paladins, qui deviennent evil et qui forcément s'habillent en noir ensuite. Enfin, le standard, quoi. Scénario, il a été écrit par les mêmes que d'habitude. Enfin, même que d'habitude, mais le jeu est vraiment très plaisant à jouer. C'est une autre expérience du jeu des affrontements de jeux de combat. Et on retrouve pas mal de mécanismes avec des défenses spéciales, des super attaques, des cancels, pas mal de mécanismes de jeux de combat qui sont dans ce jeu-là.
Il y a eu plusieurs épisodes d'ailleurs de Psychic Quest.
J'en ai connu au moins deux. Maintenant, je ne veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas pris tous les renseignements là-dessus. Au moins deux, donc là il y a une nouvelle version qui sort et qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, il me semble. Ça devrait être sorti au moment.
Je vois le 2 novembre,
effectivement. Ouais, ça devrait être sorti au moment où on vous parle. Donc si vous êtes au Japon, vous avez plein de choses à tester. Entre Hilda là sur Under Nighting Burst et ce jeu que je vous recommande chaudement.
Ouais, d'ici le prochain Tossi, on aura le temps de voir des vidéos du jeu, je pense, de la version arcade.
Ah, ça serait pas mal. Et ça serait bien qu'on ait accès au Nessie KX Live en France ou ailleurs. Hein. Je sais pas si comment techniquement ça pourrait être possible, mais ça serait bien qu'il s'ouvre un peu au reste du monde.
Ouais, ça paraît compliqué quand même.
Bon, on va parler. Alors, on va rester sur le même sujet. On va parler de tout. Alors, tout, c'est des. On n'est pas du tout dans le jeu de combat, et pourtant, si tout, c'est des maniaque shooters à la base. Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu tout?
Alors, j'ai déjà joué effectivement à un jeu tout en shoot'em up.
Voilà.
En maniaque shooter. Donc j'ignorais avant que tu me le dises qu'il y avait des versions un petit peu plus, enfin différentes.
Ouais, ben, moi pareil. Par contre, on peut en profiter pour faire un petit clin d'œil à Will Cook qui lui bien sûr aime les shoots aussi. Donc ouais. Et puis aux gens de Neo Arcadia qui jouent beaucoup.
Alors, on n'est pas des spécialistes, on sait qu'on va être corrigé dans tous les sens quand on va en parler. Alors, tout, à la base, les tout, c'est des maniaque shooters, vous savez, avec des tas de boulettes partout dans l'écran, éviter avec des patterns à connaître par cœur pour essayer de faire les meilleurs scores. Il y a des scores attaques, en fait, que vous pouvez trouver un peu partout sur Internet. Donc, c'est une discipline à part entière, sachant qu'il derrière, il y a toute une communauté de fans derrière ce type de jeu, puisque les Too en particulier sont vraiment un style particulier de maniaque shooter, avec toujours des personnages récurrents, des problèmes récurrents, des patterns récurrents, enfin, pas mal de choses qui reviennent. Donc là, on en est à 14, il me semble, 14 jeux, et il y en a deux ou trois d'entre eux qui sont des jeux de combat, donc à la un peu comme le Psychic Force, c'est-à-dire un peu comme dans un espace un peu en 3D, où on se déplace de haut en bas sans problème, avec des coups spéciaux par personnage. Et donc là, le Too Project donc, vient d'annoncer un dernier jeu, un prochain jeu qui s'appelle Hopeless Masquerade. Donc ils ont diffusé un trailer d'ailleurs à ce niveau-là, qui est passé le 3 novembre. Et vous voyez des personnages, donc c'est des petites fillettes, des sorcières. C'est tout mignon, mais bon, c'est pas non plus. On n'est pas du tout dans les jeux Arc 6 avec des boobs qui ressortent et tout, c'est vraiment des gamines. Et vous retrouvez le gameplay qu'on retrouve dans ce type de jeu avec des attaques spéciales, des rayons laser, des boules de feu, des pièges, enfin tout ce qu'on retrouve dans ce type de jeu. Et ça donne envie d'y jouer quand on regarde le trailer. Alors je pense que je vais le mettre, si on n'a pas fait de news là-dessus, je vais peut-être le mettre dans la news.
Ouais, c'est une très bonne idée.
Voilà. À la suite du.
Ouais, c'est assez rigolo à regarder.
La suite des tableaux de chiffres de TMDJC.
Ou pas.
Non, le jeu sera a priori jouable au Comiket en décembre. Donc, Comiket, c'est une exposition japonaise très connue où il y a généralement justement plein de trucs désignés, enfin pour les otaku tout ça. Mais donc là, il y aura une version jouable du jeu. Je ne sais pas si ça sera. Bon, ça sortira sur PC de toute façon.
Normalement, comme... les utilisateurs de PC peuvent jouer hein, avec un émulateur pour y jouer. Il me semble que c'est sur PC que c'est joué en Europe en tout cas. Maintenant, je ne sais plus les dernières versions. Il me semble que c'était jouable aussi. Hein. Enfin, les fans trouvent toujours des moyens de.
Oui, il y a des versions PC.
Ouais. Mais c'est vrai que malheureusement, en termes de commercialisation, ça n'a jamais franchi les frontières du Japon.
C'est assez particulier, et puis vu que c'est certainement pas, je dis sûrement une grosse bêtise, mais je pense pas que ce sera traduit ni quoi que ce soit.
Donc, ah non, pas du tout.
Donc c'est assez compliqué de, c'est assez compliqué d'y jouer ailleurs que, enfin, autrement qu'en se le procurant de façon par en ligne et sûrement de façon détournée.
Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Bah, tout à l'heure, tu nous parlais sinon de Stick.
Yep, on va enchaîner sur le journal du Hard. Effectivement, on a eu les premières images du Stick Wii U. Alors, on sait qu'il va y avoir donc un Tekken qui va sortir sur Wii U et certainement d'autres jeux de combat qui arriveront sur la console. Et donc, Ori, en fait, on a eu une photo, une image du Stick Wii U, Ori. Donc, c'est le premier constructeur qui annonce du matos dédié aux jeux de combat pour la console.
Non, je crois que Madcast avait déjà annoncé un stick, il me semble.
Ouais. Bon, en tout cas, c'est le premier qui montre en tout cas des vidéos. Alors, c'est un stick donc prévu pour la Wii U et spécialement pour Tekken. Enfin, c'est une édition Tekken Tag Tournament 2 sur Wii U. Par contre, alors, bon, c'est du classique. Hein, c'est une forme un petit peu différente de ce qu'on voit. Mais après, le layout, c'est un layout Ori classique, donc d'Astro City. On a des boutons sans noix dedans. Le stick a priori c'est peut-être bien du Ori hein. Généralement Ori met des boutons sans noix et pas forcément le stick qui va avec.
Je crois que là par contre non, c'est pas du sans noix les boutons, il me semble que c'est du Ori Kuro HLF30.
Ah oui, comme on a pu voir sur le Ori tactile avec le pavé tactile sur le côté.
Alors qui sont censés être mieux et qui sont censés être uniques.
Ouais, qu'un feeling a priori pas trop mal d'après les retours des joueurs. Après, c'est ce qu'on se posait comme question, c'est la durée de vie du bouton. Quoi qu'il en soit, en fait, la vraie question par rapport à ce stick dont on n'a pas la réponse, c'est de savoir si... S'il y a un moyen de le brancher directement à la console ou, d'après ce que je lis, en fait, c'est uniquement en branchant sur un Wii Remote. Donc, en gros, ce serait une version sans fil, comme on a pu voir sur les sticks Wii. À savoir que tu branches, en fait, ton stick sur la Wii en extension et qu'après, la console détecte le stick en sans fil.
Ouais, ça on verra, on n'a pas d'infos sur la connectique du stick. Après, il y a une chose, il faut voir que la tablette Wii U, elle est censée avoir une excellente réactivité. Tous les retours et les tests qui ont été faits ont montré que s'il y avait une excellente réactivité. Est-ce que dans un jeu de combat, ça peut affecter le jeu? Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a déjà le lag de la télé et tout. Je ne suis pas sûr qu'on voit une différence fondamentale si c'est branché sur la manette sans fil ou pas, à part la question des piles ou quoi que ce soit, le truc qui se plante en plein milieu d'un combat, mais il ne devrait pas y avoir de changement. Enfin, à mon avis, c'est étudié pour, sinon ça ne servira à rien.
Ouais, bah, à voir de toute façon, le temps que la console sorte, que les gens se procurent le stick et tout ça, on a le temps de voir venir.
De toute façon, quand tu fais ta manie pour lancer ton coup, ton perso il fait « It's a me, Mario !» et après il lance son coup. T'as le temps normalement.
T'as le temps de revenir. C'est clair. En tout cas, bon, bah, ça prouve qu'il y a déjà du matos qui arrive pour Wii U. Donc, est-ce que on va avoir d'autres jeux de combat qui arriveraient par la suite sur la console?
Pour l'instant, il n'y en a pas d'annoncé.
Pour l'instant, il n'y en a pas d'annoncé. Je pense que ça viendra avec les futurs jeux de combat qui sortiront sur les consoles next-gen. Mais qui ne sont plus next-gen maintenant, mais
old-gen, sur les consoles actuelles. Future next-gen.
Voilà.
D'ailleurs, il y a, à part au point de console next-gen, il y a les kits de développement PS3 qui ont été envoyés. Ils ont été envoyés aux éditeurs, ça commence à filtrer puisqu'il y en a beaucoup qui ont été envoyés. A priori, c'est une technologie ARM.
Tu veux dire PS4,
oui, PS4.
Il y avait toujours un truc que je trouvais pas cohérent, ou alors je me suis dit, putain, j'ai voyagé dans le futur.
Non, ou dans le passé. Ou dans le passé. Ah oui, il y a des nouveaux processeurs Cell qui sont 8 fois plus puissants que la Xbox 360. Vous allez voir, ça va être génial.
Ouais.
Bah, trop bien.
C'était la PS3, ça, quand elle est sortie.
Ah, pardon.
Non, a priori, les kits PS4, ça va être une puissance équivalente pratiquement au PC haut de gamme d'aujourd'hui. Enfin, quand on dit PC haut de gamme d'aujourd'hui, c'est ceux avec la carte graphique à 600 euros. Hein. Donc ouais. Ça va être une technologie x86, donc ils reviennent sur une technologie PC qui s'apparente plus à ce qui est PC. Et en termes de mémoire, ils annoncent 8 ou 16 gigas, on ne sait pas trop, en RAM.
Donc, bon, on attend de voir de toute façon ce que vont en faire les développeurs, surtout parce que aussi console, aussi, voilà, j'ai vraiment du mal, aussi puissante que soit la console, on l'a pu le voir avec la PS3, si les développeurs derrière n'ont pas les capacités et la facilité surtout de développer dessus, ça va pas aller bien loin. Et puis de toute façon, faut bien se dire que les développeurs à l'heure actuelle sont un petit peu frileux à vouloir absolument développer sur une seule machine et du coup ils essayent de c'est le nivellement par le bas, hein. Quand t'as une console un peu moins puissante que l'autre, bah tu fais pas plus d'efforts que ça pour sortir sur tous les supports possibles.
Ouais, ça fait 10 ans qu'on tourne avec la génération actuelle, donc il y a quand même un effort. Quand tu vois un jeu sur PC et un jeu sur console aujourd'hui, tu mets les détails à fond sur PC, t'as une différence qui est flagrante, quoi.
Ouais, c'est clair.
Flagrante. Alors que les consoles aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux. Le seul problème, ça va être le coût que ça va coûter. Il faut que les éditeurs suivent derrière. Les budgets vont augmenter puisque développer un jeu en HD, c'est pas le même coût que développer un jeu avec des textures qui sont pas HD. Même si normalement aujourd'hui, les gens ont l'habitude, les textures sont déjà à 50% toutes des redites en fait de textures déjà existantes. Mais même pour en revenir sur les jeux de combat, là, c'est avec les nouvelles consoles qui vont sortir, elles vont certainement être beaucoup plus puissantes que la Wii U. On va se retrouver avec le même débat, la même différence. Hein. On va avoir des jeux en 3D super beaux sur la nouvelle console et sur Wii U qui seront un peu en dessous. Donc, est-ce que la Wii U aura des jeux derrière qui seront à la mesure de ses concurrents? C'est même pas sûr du tout.
Bon, tout ça c'est bien beau, mais bon, on a du coup TMDJC n'était pas là la semaine dernière.
Ouais, on s'est retrouvé avec un Canon Spike. Alors, on avait une question qui avait été posée par un lecteur ou un auditeur en fait dans les commentaires d'un toastie il y a deux semaines, qui demandait comment ça se faisait que Gookie avait cédé au Darkado. Alors, je ne sais pas si tu avais noté cette question. Pourquoi Gookie, qui était censé être très fort, avait cédé au Darkado?
Et moi, j'avais une question. Il y en a plusieurs autour de ça. Je vous propose qu'on fasse un mixte de la totale. Du coup, pourquoi est-ce qu'il y a cédé? Pourquoi il a les yeux rouges? Enfin, pourquoi est-ce qu'il paraît qu'il a les yeux de plus en plus rouges au fur et à mesure? Enfin, les graphistes ont demandé à ce qu'il ait les yeux de plus en plus rouges. Qui c'est qui nous avait demandé ça? Il y avait. Oh putain, c'est quoi ce pseudo? J'ai jamais réussi à le prononcer. NHGRT Player. Qui nous. Tu vas bien? qui nous demande pourquoi Akuma se laisse-t-il complètement dominer par le Satsui Noado pour devenir Oni dans Street Fighter 4. J'ai trouvé ça très bon aussi comme question.
Et moi, je voulais te demander pourquoi le Darkado, il est violet, il n'est pas tout noir. C'est pas le Pinkado, c'est le Darkado.
Voilà, on va faire un mix de tout ça. Alors, pour répondre à la première question, pourquoi est-ce que Akuma Gookie cède au côté sombre du Hado, si on s'appuie juste sur la ligne de création des personnages, c'est parce qu'en fait le premier personnage qui devait être le personnage caché en fait de 2X devait être Gouken au départ, pour faire plaisir aux fans. Mais pour mettre un petit peu de challenge et donner envie un petit peu aux joueurs vraiment de dépasser le jeu, enfin vraiment le personnage caché tout ultime, tout en rappelant que le jeu s'appelait Ultimate Championship pour les Grand Master Challenge, pour les persos, enfin les persos étaient vachement durs d'accès hein, dans ce jeu-là, l'IA était vraiment très forte. Ils ont décidé de créer un frère maléfique à Gouken et de le rendre plus fort que Gouken, parce que Gouken avait même réussi à tuer Gouken, donc c'était vraiment le personnage à abattre. En plus, il était mauvais, comme on incarne plutôt les gentils dans l'ensemble, enfin les personnages qui sont le plus souvent joués sont plutôt les bons dans cette licence là c'était histoire d'appâter le chaland. Maintenant, si on s'appuie sur le côté historique et donc canon là-dedans, en fait, tout simplement, Gookie se laisse aller au côté sombre pour deux raisons. D'abord, d'une, parce qu'il ne comprend pas pourquoi son maître Gotetsu en fait l'empêche d'utiliser les techniques les plus meurtrières, parce qu'il considère qu'un combattant accompli en fait doit connaître toutes les bonnes techniques. Hein. On reconnaît un petit peu un peu plus tard, on retrouvera ce même type de discours dans la bouche d'Anakin dans le troisième épisode de la nouvelle vague des Star Wars.
Ou même dans Rao, dans Ken le survivant.
Exactement. Donc en fait, finalement, quelque chose qui est totalement, merci d'ailleurs de l'avoir rappelé, quelque chose qui est totalement omniprésent dans l'univers shonen en général, où effectivement les meilleurs combattants sont pas forcément les combattants les plus gentils, mais ceux qui sont capables d'aller chercher un petit peu partout. Et la deuxième raison, c'est que en fait, Gookie se rend compte que plus il se laisse dominer par la partie sombre, plus il se trouve puissant, vif et rapide. Donc, il décide d'aller jusqu'au bout, puisque de toute façon, son but ultime, lui, c'est d'être le meilleur combattant. Donc, il décide de laisser de côté tout le reste. Et voilà pourquoi il sombre dans ce côté sombre. Alors, à la question pourquoi est-ce que les développeurs ont fait les yeux de plus en plus rouges, en fait, non, les yeux ont toujours été rouges de Gookie. Si jamais vous le jouez dans 2X, dans X-Men, la première version, donc où il est personnage caché, quand vous jouez dans les versions alpha, en fait, il avait déjà les yeux rouges. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment changé au fur et à mesure. Et pourquoi, du coup, on parle de Oni suite d'Akuma, en fait, de manière canon, Oni et Akuma sont deux personnages différents. On les confond pour deux raisons. En fait, Oni et Akuma, à peu près au Japon, veut dire à peu près la même chose. On parle d'un démon en fait, du, du diable. Hein. Oni, c'est les démons en général. Je ne sais plus quelle est la petite nuance entre les deux. Je sais qu'il y a une nuance en japonais entre les deux. Mais on parle de démons dans les deux cas de figure. Donc, je pense que c'est un clin d'œil aussi. En fait, de manière canon, dans l'histoire, Akuma s'appuie aussi sur les pouvoirs de certains démons en fait, pour accéder au côté sombre du Hado. Quand Oni est développé au départ dans Street 4, l'idée en fait est de créer le personnage qui donne entre autres une partie de ses pouvoirs à Guki, et donc pas Guki lui-même. Après, il y a effectivement d'autres jeux un petit peu plus obscurs dont on a déjà parlé, où on s'est retrouvé avec un Akuma qui se transformait en Oni dans sa version forte. En fait, Akuma est déjà fort, entre guillemets. La véritable version d'Akuma, c'est Shin Akuma, Shin dans le sens véritable, l'authentique Akuma, l'authentique Guki, donc le personnage se suffit déjà à lui-même. Et si jamais vous regardez le gameplay de Oni et celui d'Akuma, il ne s'agit évidemment pas du même personnage. En fait, Oni emprunte dans le gameplay des coups de plusieurs personnages, dont ceux de Guken. Donc voilà, on n'est pas, il ne s'agit pas du même personnage. Et maintenant, pourquoi le Dark Hado est-il violet et pas noir et on n'est pas dans Kof? J'aime bien la petite remarque. J'ai trouvé ça assez drôle, effectivement, référence effectivement à Yori dans ce cas-là. En fait, il n'y a pas de vraie couleur au Dark Hado, donc les développeurs ont choisi le violet là-dessus, bon pourquoi pas. En fait, si jamais on devait retracer les couleurs de l'Hadoken, les Japonais ont toujours fait très attention aux couleurs qui étaient choisies. Dans Street Fighter, premier du nom, en fait, l'Hadoken est rougeote, en fait, il est dans un jaune orangé limite rouge. Donc, ce qui fait une palette de couleurs assez large, mais en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs couleurs en fait qui s'entremêlent dans cet Hadoken. Et Okamoto en fait a participé donc à la création de Street 2, le Hadoken est devenu bleu. Hein, le bleu que vous connaissez à l'heure actuelle, parce que le bleu de Ryu n'a quasiment pas changé en fait. Les teintes sont quasiment identiques à peu de choses près depuis le premier jeu. On parle de la couleur de base bien sûr. Et puis il y avait un Hadoken rouge qui se baladait de temps en temps, et ce Hadoken rouge qu'on voyait apparaître de temps en temps en fait est une référence d'après Okamoto en fait au rouge en fait de départ. En fait, on considérait que Ken et Ryu avaient amélioré leur Hadoken et qu'il était plus pur, donc il s'était débarrassé un petit peu du côté justement sombre de leur technique, et c'est pour ça qu'il avait cette couleur bleue. Puis de temps en temps il lâchait un Hadoken rouge parce qu'ils étaient plus ou moins énervés. En fait, ça sortait de manière totalement aléatoire dans Street 2. Est arrivé Super Street 2 où Ryu a donc acquis une nouvelle forme de son Hadoken, le Shakonetsu en fait, où on enflamme l'adversaire. En fait, c'est parce qu'il y avait certains joueurs qui pensait que le Hadoken rouge était plus puissant. Il en était absolument rien, mais du coup Capcom s'est dit tant qu'à faire rajouter un nouvel Hadoken, on va jouer là-dessus. Donc retour à l'envoyeur, le Hadoken rouge devient plus puissant finalement que le Hadoken bleu, et ils ont continué à jouer sur ces fameuses couleurs. Et à partir de Street Fighter Alpha, les Hadoken, le Go Hadoken de Guki, l'Hadoken de Ken et l'Hadoken de Ryu n'ont pas les mêmes couleurs. En fait, l'Hadoken de Ken est plus pâle que celui de Ryu, sous-entendu en fait il est moins puissant, et celui d'Akuma, le Go Hadoken, en fait a une couleur limite violacée, où on retrouve donc cette teinte rouge qui vient se mélanger à ce côté ado. On peut penser que du coup dans le Dark Hado, le fait qu'ils aient choisi le violet, c'était certainement en référence à cette couleur là au départ, mais ça c'est quelque chose par contre qui n'est marqué nulle part et que je ne peux évidemment pas vous confirmer.
Ah ouais, donc en fait même quand on te pose des questions sur les couleurs de Hadoken, t'es capable de nous répondre. Alors ils sont slip ou caleçon, Ken et Ryu, slip ou caleçon?
Alors les deux caleçons, et pour la petite anecdote, le caleçon de Ryu est bien blanc avec un bandeau rouge, donc en fait l'élastique du caleçon de Ryu est bien rouge comme le bandeau qu'il porte, alors que celui de Ken est rouge mais avec un élastique jaune comme ses cheveux.
Et est-ce que de temps en temps ils ont un caleçon orange parce que...
Est-ce que Ryu de temps en temps, comme son ado, il se lâche un petit peu de temps en temps il y a un peu de Dark Hado dans son caleçon.
Mais un caleçon X, ou là c'est un peu jaune. Ah non, c'est comment t'as dit,
je n'ai pas cette information, je ne saurais vous répondre.
Écoute, MDJC, j'ai bu tes paroles. C'était, c'est vraiment.
Non, j'étais choqué, je me suis dit, mais non, il va pas nous faire sur les couleurs de la douche.
Il peut le faire.
C'est pas possible. Le prochain Canon Spike, il faut qu'on trouve pire.
Bah écoutez, chers amis, à vous de participer. Laissez-nous un message sur bagropoint.fr ou à tmdjc@bagropoint.fr et on se chargera de regarder ça en détail.
Ok. Alors on va passer à la suite. On va parler des tournois et d'abord on va parler d'abord du tournoi qui vient de se terminer, le tournoi Street Fighter 25 ans à la Paris Games Week.
Yep.
Qui s'est terminé. Alors, vous savez que ce tournoi, il y a tout un enjeu derrière avec les finales internationales à San Francisco avec plein de thunes et des voitures à gagner. Enfin bon, tout ça. Ouais. Et donc, Tim, je crois que tu as vu, toi, tout le tournoi, tu as tout vu.
Alors, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé ce que j'ai pu en live. J'ai regardé le reste en VOD. Enfin, oui, en fait, j'ai vu une grosse partie du tournoi, mis à part Cross Tekken où j'ai pas regardé les Master Series européennes, j'ai regardé les matchs français. Ce qu'on peut dire en fait sur la version sur les Master Series Europe, donc avec des participants qui viennent de toute l'Europe, on peut dire que la France a quand même bien représenté le pays, et notamment dans la plupart des jeux. Sur Street 4, Alioune finit second.
Avec Camille.
Finit second avec Camille après un retour en loser où il perd un match contre Andreas qui a joué un Rufus absolument dégueulasse, il faut le dire. Mais bon,
ce que j'aime bien, dégueulasse.
Non, mais c'est pas pire que moi, je supporte pas les 7. Quoi. Il y a ces problèmes X qui gagnent avec un 7. Bah, c'est vraiment le perso insupportable pour moi.
Le perso est insupportable. Après, j'ai envie de pas tomber dans la mode française, à savoir que quand Alioune gagne, c'est parce qu'il est trop fort, et quand Alioune perd, c'est parce que le perso en face est complètement pété. Non,
je rappellerai quand même que 7 est un très bon perso, mais que petit 1, il faut savoir très bien le jouer pour avoir une chance de gagner. Puis que des 2, il a une barre en mousse de merde.
Il a une barre de vie de combo.
Il prend 3 coups dans la gueule. Enfin, moi, tu fais un Zangief 7, tu mets 15, enfin, je sais plus, une seconde et demie à le détruire.
Ouais. Alors après Problem X est pas arrivé là juste avec son perso. Hein,
Non, il est pas arrivé là par hasard. Il est bon.
Il a très bien joué. Après, le perso, c'est vrai qu'il faut quand même se dire que pour moi le gros joueur du tournoi, la vraie bonne surprise, c'est Phoenix. Phoenix qui joue T-Hawk. Voilà. Le mec joue T-Hawk. Et finit quatrième devant Starnav, devant Easyman avec Soryu, devant Skatan et d'autres persos bien pétés. C'était vraiment un plaisir de le voir.
Il a pris T-Hawk en hommage à Ken Bogard, et ça, je crois qu'on peut le rappeler.
Voilà. Un T-Hawk rose absolument magnifique. Et c'était autant je joue plus à Street depuis quelques temps, autant les matchs étaient vraiment sympas à regarder. Streetcast c'était vraiment bien. Donc Alioune a sa place pour les États-Unis. Donc, finissant deuxième, il arrivait en finale en sachant tout à fait qu'il avait sa place de gagner. Donc voilà, est-ce qu'il va emmener son canapé avec lui? Parce qu'il faut savoir qu'Alioune quand même est un joueur de canapé.
Ouais, il va le mettre dans l'avion puisqu'il a deux places apparemment. Hein, de toute façon.
Donc Alioune aussi, pour revenir vite fait sur ce qui s'est passé avant les Masters Series Europe, Alioune qui a remporté donc Street 4 sur la Coupe de France. Qui a remporté Street Cross Tekken sur la Coupe de France, et donc voilà, le joueur continue à prouver qu'il est vraiment au top au niveau européen. Donc ensuite sur Street Cross Tekken, je pourrais pas en dire plus. Tout ce que je sais, c'est que sans grande surprise, Alioune a remporté aussi le tournoi.
Ouais, avec Lily et Jack.
Avec Lily et Jack X devant Fuzzy qui joue Camille Poison et Tufada. Alors c'est dommage, j'ai pas la nationalité des joueurs, donc j'ai pas envie de dire de bêtises.
Mais c'est Asenka qui nous avait dit de faire gaffe. Hein.
Oui, Asenka avait prévenu, et puis effectivement, Alioune gagne Cross Tekken. Alors moi, le jeu qui m'a vraiment, enfin les deux jeux qui m'ont vraiment le plus passionné à regarder, c'est 3.3, First Strike et 2X. Sur First Strike, bah Gunfight, voilà, Impérial, le joueur montre une nouvelle fois qu'au niveau européen, il y a pas photo, quoi. C'est vraiment, il est vraiment devant tout le monde, il connaît le jeu sur le bout des doigts, c'est hyper plaisant à regarder, son Dudley est absolument magnifique, il confirme tout ce qui est il confirme tout ce qui est confirmable. Il a une lecture du jeu absolument, absolument incroyable. Enfin, c'est,
il loupe aucun de ses chaînes.
C'est impressionnant. Mais c'est un plaisir à regarder les First Strike.
Ouais, les matchs de First Strike, c'était vraiment. Alors,
bah, surtout à ce niveau-là.
Ouais, on est carrément loin. Par contre, il y avait un truc à pas regarder, c'était les Marvel. Tout ce qui était Marvel. Parce que les Américains qui regardaient, moi j'ai traîné un peu sur la chat, ils ont appelé les combos qu'on a pu voir, ils ont appelé les French Reset. En fait, voilà. Les mecs qui arrêtaient pas de dropper leur combo.
Ouais, non,
c'était dommage, hein, parce qu'en plus, je sais pas pourquoi il devait y avoir. Je sais pas s'il y avait du lag ou je sais pas quoi, mais dropper des trucs qui avaient l'air.
Non, pourtant, le tournoi Marvel était catastrophique, aussi bien au niveau des ratés de tous les joueurs. Donc c'est ça qui est assez étonnant, hein, c'est que tous les joueurs rataient sans exception. Enfin, il y avait vraiment des ratés partout, sans compter un petit malin qui s'est amusé à faire glitcher le jeu avec Nova. Enfin, on ne reviendra pas là-dessus, mais bon, c'est vrai que le tournoi Marvel est à mettre un petit peu à l'écart. Et après 2X, on a Aero Rockman. Aero Rockman qui joue Bison et Guile et pareil qui a gagné sans trop de difficultés. On a notre petit belge Kedpachi derrière qui arrive deuxième. Fuzik Ryu et puis voilà dans les joueurs les plus connus. Walmart malheureusement qui par rapport au pronostic qu'on avait lancé n'est pas dans le top.
Ouais, j'étais super étonné.
Bah ouais, non, Rockman a fait le taf en Coupe de France et du coup gagne derrière pour les Masters Europe. Donc voilà, donc c'était vraiment sympa, c'était streamé de manière nickel par Yamato pendant 4 jours, quoi, le gros marathon aidé par notre Nathan National.
D'ailleurs, vous pouvez retrouver les vidéos sur le channel Twitch de Yamato, c'est Yamato_FR. Et vous avez l'intégralité des streams parce que tout est streamé avec une qualité irréprochable en HD qui sont à votre disposition. Donc vous avez des heures et des heures de vidéos pour vos journées de boulot ou de
cours. Et puis on en profite une fois de plus. Hein. C'est pas parce que c'est l'équipe interne, mais pour les remercier vraiment pour leur boulot, parce qu'on rappelle que tout ça est mis gracieusement à disposition de tout le monde. Hein. Le but du jeu, c'est de continuer à faire évoluer notre communauté et de continuer à faire grimper le niveau. Mais le fait est que ça demande un boulot absolument démentiel, même si c'est motivé par la passion. Donc merci beaucoup les gars. C'était vraiment super sympa.
Ouais. Ouais. Et je voulais juste rajouter une dernière chose. C'est alors, j'ai pas vu malheureusement tous les streams. J'ai vu par contre celui de Street Cross Tekken version Coupe de France. Coupe de France, donc le premier, le deuxième jour. Et le chiffre de ce tournoi, c'est 13. C'est le nombre de time-out. Non, on est mauvaise langue. Il y a eu pas mal de time-out. Malheureusement, par contre, curieusement, Alioune en fait évitait les time-out parce qu'il optimisait bien ses combos. On voyait qu'il avait taffé beaucoup plus que d'autres. Qui essayait de voler un peu les rounds avec des trucs standards, mais Alioune vraiment essayait d'optimiser ses dégâts en essayant de sortir des combos qui infligeaient rien, comment il s'appelle ça, la déchaîne combo, ça porte un nom dans Cross Tekken. Lui, il essayait vraiment d'aller aux dégâts, et donc du coup, il y avait très très peu, il a fait baisser les pronostics de time out avec ses victoires aux dégâts.
C'est tout à son honneur, bravo.
Ouais, parce que ça, franchement, les time out à regarder, c'est assez chiant en fait.
Ah, c'est un des défauts de cette compète. Mais bon, c'est pas grave, au moins on s'est bien amusé avec 3.3 et avec les autres jeux. Les autres jeux, il y avait vraiment du beau spectacle, il y avait de l'ambiance. Ken Bogard,
il y a eu des belles phases sur certains matchs dans Street Cross Tekken. Il y a eu des beaux trucs.
Ah oui, il y a eu des beaux trucs, mais surtout avec Alioune. Enfin, c'est pas pour être chauvin ni rien, mais c'est vrai que il y a des joueurs qui posaient leur jeu et t'avais pas l'impression que.
Voilà, pour aller dans le sens de Captain Algeria ou d'Asenka, en fait, les gens qui maîtrisent vraiment le jeu, etc., peuvent offrir vraiment un spectacle agréable. Le problème, c'est qu'il faut avoir envie de quoi.
Le problème, c'est qu'il n'y en a plus que deux.
Voilà. Ah, c'est pas gentil. C'est pas gentil, mais c'est tellement vrai.
Allez, on enchaîne.
On va enchaîner sur les tournois donc à venir cette fois-ci. On a un nouveau tournoi qui est prévu, qui a été annoncé. C'est un tournoi de 3.3 qui a lieu le 23 novembre. C'est par l'association Double KO à Rouen, à la maison Saint-Sever, Saint-Sever à Rouen. Vous avez les informations sur le forum Bagropoint. Donc alors, il y a deux dates. Il y a le 9 novembre, donc là ce week-end, où vous avez du free play sur 3.3 et sur BlazBlue CS. Et le tournoi en lui-même de 3.3 qui aura lieu le 23 novembre. Et donc, alors comme d'habitude pour leur tournoi, c'est 4 euros pour participer si vous n'êtes pas adhérent à l'association, 2 euros si vous avez bien fait les choses et que vous êtes adhérent à leur association, sachant que l'adhésion coûte 10 euros et qu'il y a toujours au moins un événement par mois avec du free play, des bornes et machin. Et donc, c'est un tournoi sur Xbox 360. Qui a lieu et c'est tout. Je crois qu'il y a pas de, non, y a pas de lot ni rien. C'est juste pour le fun.
C'est pour le fun et c'est
ah si si si, il y a des lots, c'est des bons d'achat dans une boutique de jeux vidéo à Rouen. Donc il y a une raison supplémentaire que d'humilier ses adversaires pour gagner.
Ce qui est bien dommage en fait, humilier son adversaire, ça suffit en fait à se motiver normalement. À côté de ça, le 10 et 11 novembre, l'ESB à Lyon, EWMIX, c'est pendant la Japan Touch. Donc c'est 20 euros par tournoi et vous avez du SSF4, du 2X, du 3.3, du COF13 et du Mark of the Wolves.
Ouais.
On continue avec Animest, c'est par l'association NTSC, donc c'est le 17 et 18 novembre.
À Nancy,
voilà. NTSC, donc bon asso qui fait les trucs bien, qui fait les choses bien. On a le samedi 17 Street 4 et Coff, et le dimanche il y aura du Tekken Tag 2 et du 3.3 Online Edition. Alors comme c'est pendant Animest, la convention, il faut savoir que les tournois sont gratuits, mais bon, il faudra payer l'entrée à la convention, qui est de 13 euros pour les deux jours ou 8,50 € pour le samedi ou 7,50 € pour le dimanche. Voilà. Et il y a de free play sur plein d'autres jeux.
C'est bien, je trouve les tournois gratos comme ça, temps en temps, enfin bon, même s'il faut payer entre guillemets l'entrée, parce que des fois il y a l'entrée à payer puis le tournoi derrière. C'est assez rare pour.
Ce qui est vraiment bien, c'est que du coup là c'est dans une convention et du coup ça met de l'animation dans la convention, voilà. Et en plus de ça, quand vous êtes là, ça vous pouvez participer gratuitement. Ça va inciter pas mal de gens, je pense, qui sont pas forcément familiers avec le jeu de combat à participer vu que c'est gratuit et puis c'est toujours une bonne ambiance.
Oui, j'en profite pour ce genre d'événement. S'il y a, il y en a de certains de nos auditeurs qui sont de Nancy, qui n'ont jamais osé et qui jouent tout seul sur leur console en se disant non, mais j'ai pas le niveau, tout, etc. Franchement, allez-y, c'est vraiment sympa. Ça crée vraiment, il y a vraiment une ambiance différente. Moi, tous les tournois auxquels j'ai participé, c'est assez rare en fait les vrais gros cons en fait qui sont chiants en fait. Allez-y, faites-le, c'est sympa.
Vous avez tout à y gagner, c'est clair. Voilà. Rencontrer du monde, apprendre des choses sur le jeu ou d'autres, et puis créer des liens avec les gens, c'est par rapport à une passion commune, c'est beau.
Exactement.
Voilà, et donc à la même date, il y a un autre tournoi qui est à Montpellier cette fois, donc c'est le MIG. C'est organisé par la SLE et Shoryupif.
Nos petits copains de Shoryupif.
Voilà, Shoryupif que tu connais bien. Et il y a deux tournois, il y a le tournoi SF4 le samedi 17 et le 18 c'est Tekken Tag 2. Il y a des inscriptions, pré-inscriptions si vous inscrivez avant, c'est à 15 euros et c'est 20 euros sur place. Sinon, il y a des lots à gagner, il me semble. Maintenant, c'est quoi déjà? De toute façon, il y a leur
site. Je crois qu'il y a, de mémoire, il y a un cash prize de
750 euros. C'est ça, ouais. 750 euros. Il y a un Stigmat 4. Il y a des jeux Namco Bandai sur Xbox 360. Et il y a un t-shirt Street Fighter Cross Tekken. Attention.
Ah, autant pour moi. Oh non, il n'y a pas de t-shirt.
Donc il y a ce sera streamé normalement par LDLC, donc c'est sera Yamato ou pas, je sais pas.
Oui, je crois que c'est Yamato qui.
C'est lui. Ah, LDLC, il y a de fortes chances avec ce seul.
Ouais, c'est lui effectivement. C'est lui effectivement. Donc c'est un tournoi super intéressant à pas rater si vous voulez y aller. Et là, comme dit MDJC, il faut vraiment pas hésiter, surtout si vous êtes dans le coin, à participer à ces tournois. Surtout qu'il y a souvent plus fort que vous, mais il y a aussi plus moins fort que vous et tout le monde est sympa en général.
Franchement, c'est une bonne équipe. Alors là, ils sont validés par moi. Ouais. Allez. Je les valide.
Allez, les choses sont bien faites. Et puis, participer à un tournoi, ça n'a rien à voir avec un événement sur le live ou un tournoi, même offline. Même un tournoi online, c'est pas la même chose. Au moins, tu peux.
Ah non, c'est clair.
T'es vraiment dans l'ambiance, t'as vraiment les encouragements, les spectateurs, la pression, tu rates tout alors que d'habitude tu réussis. C'est vraiment sympa.
Ouais, c'est clair que les ambiances tournois, enfin son premier tournoi, généralement c'est quelque chose. On se rend compte, on se met la pression tout seul sur des matchs qui n'ont pas forcément d'importance. Mais
oui, c'est vrai, en plus, c'est vrai.
Mais non, mais c'est vraiment quelque chose de particulier.
Oh non, c'est un Akan en face. Qu'est-ce que je vais faire?
Il faut participer au moins une fois à ça parce que c'est vraiment du bonheur et des bons souvenirs. Quoi.
Ah, c'est pour ça qu'on vous parle des tournois. De toute façon, c'est
faites-vous plaisir.
Faites-vous place. Dès qu'il y a un tournoi dans votre région, si vous pouvez vous déplacer, il faut y aller. Même des petites associations, n'hésitez pas à aller sur l'annuaire de la dose, sur le site, ou à vous inscrire si vous faites partie d'une association et qu'elle n'est pas inscrite sur l'annuaire de la dose.
Oui, surtout qu'on nous a déjà posé des questions des fois. Oui, est-ce que moi, si jamais je suis tout seul ou si on n'est que deux, qu'on a monté une association, est-ce que oui, la réponse est oui, vous pouvez vous inscrire chez nous, il n'y a pas de problème. Laissez-nous vos informations. En fait, vous êtes peut-être que deux aujourd'hui, mais si jamais il y a un mec qui passe sur Bagro Point et qui se rend compte effectivement que bah, il y a deux mecs là qui dosent, d'accord, que lui il joue tout seul, ils disent bon, bah, ok, très bien, bah, j'y vais, je vais aller voir ce qu'ils font.
Exactement. Bon, eh bien, je pense que c'est bon, là.
Ouais. Ouais, on a fait le tour des tournois, on a fait le tour de l'actualité, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'actualité et plus d'informations sur tout ce qui se passe dans le monde du jeu de combat.
Non, parce que là, il y a Gremlins 2 qui passe à la télé.
Ah,
alors,
mais
j'ai pas l'impression comme ça.
Sur TMC.
Ah, bah voilà. Non,
Gremlins 2. Bon, ben, je vous laisse. Salut.
Bon. Voilà. Allez, bye 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 tout le monde.
Salut.
Bisous.